Accès libre.
29 novembre 2016, bienvenue à l'émission Accès libre. Oui, c'est Clotilde Seille qui vous accompagne et qui souhaite, avec vous toutes et vous tous d'ailleurs, je l'imagine, un prompt rétablissement à Benoît Racette que vous retrouverez dès la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous avons un programme encore une fois chargé et fort intéressant à l'émission. Je vais m'adresser à Sarah Rouleau, consultante en communication et philanthropie à l'INCa, au sujet de formation en technologie de l'information. Et puis, décidément, tout devient intéressant. Nous avions déjà les téléphones et les télés. Eh bien, figurez-vous qu'on va voir apparaître bientôt un fauteuil roulant motorisé et intelligent qui va être testé ou qui a déjà été testé au printemps. Il y aura une chronique droit avec Laurent Trépanier, Capristran, juriste et agent de défense de droit chez Execo. Et en seconde partie, on va faire la fête. On va faire la fête avec des lauréats du prix à part entière. Ils vont recevoir ça au mois de décembre prochain. Mais comme ils ont déjà été révélés, on ne se prive pas pour déjà les congratuler ici à l'émission Accès libre. J'ai noté Stéphane Marcoux, directeur général de Plein Rayon, France Geoffroy, fondatrice de la compagnie Corpuscule Danse et Kellyanne Souter, directrice générale du club de soccer Lakeshore. Voilà, c'est parti. Elle s'appelle Sarah Rouleau, elle est consultante, communication et philanthropie pour l'INCa, l'Institut national canadien pour les aveugles. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Dites donc, vous allez tenir occuper les gens, vous, avec ces formations en technologie de l'information en ligne et gratuites en plus pendant cet hiver.
Oui, exactement. Donc, ça fait plusieurs années là, qu'on offre à l'INCa des formations en ligne, mais aussi à distance par téléphone gratuitement.
Oui.
Et on en offre beaucoup, oui, cet hiver. On est très, très heureux.
Alors, 6 formations. Lesquels exactement?
Oui, ben en fait, on en offre plus que 6.
Ah.
Comme je vous expliquais, c'est qu'on fait des formations à distance.
Oui, oui.
Donc ça, on a commencé ça il y a quelques années là, pour desservir tout le Québec et permettre aux gens aussi là, de pouvoir apprendre de chez eux. Et depuis 2 ans maintenant, on offre certaines formations en webinaire. Donc là, les gens, ils peuvent se connecter selon leur disponibilité, à leur rythme.
Mm-hmm.
Et fait que ça vient aider, là, par exemple, ceux qui travaillaient de jour et tout. Donc, on a agrandi. Et cette année, ben c'est qu'on offre la majorité de nos formations. Ils sont offertes là, en webinaire. Donc, on en a 6 qui se sont des webinaires et les 2 qui sont à distance. Donc
d'accord.
Maintenant, on va de plus en plus vers ça. On essaie de créer le plus de webinaires possible pour permettre aux gens là, d'y aller vraiment selon leur disponibilité et tout. Mais ça reste qu'on a quand même là, un suivi téléphonique là, par le formateur qui est fait à chaque semaine pour répondre aux questions des gens.
Sarah, je me mets à la place de gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est qu'un webinaire. Voudriez-vous les éclairer, s'il vous plaît?
Oui, donc le webinaire, ce sont des vidéos donc qui permettent de suivre la formation, mais vraiment, les gens vont sur le site de la formation et quand ils sont prêts, à l'heure qu'ils veulent, ils peuvent partir la formation et la suivre.
Okay.
Donc, au lieu que ça soit en direct avec le formateur à heure fixe, donc nous, normalement, là, nos formations à distance, c'est par exemple à chaque lundi pendant 3 heures à un certain nombre de semaines,
mm-hmm.
Bien là, vraiment, ils vont aller sur Internet chercher la formation au moment mm-hmm. qu'ils le désirent.
Alors, on va quand même les nommer, ces 6 formations-là en ligne gratuites?
Oui, ben en fait, en ligne,
oui.
On a le iPhone,
oui.
On a Word 2010, 2013 ou 2016, là c'est la même formation.
Mm-hmm.
On a aussi nouvellement là, Windows 10 depuis septembre.
Okay.
On a Excel 2010, 2013, 2016. On a Windows 7 et voilà. Il y a, par contre, nos formations, il y en a certaines qui sont offertes soit avec la revue d'écran, comme Jazz ou NVIDIA.
Oui.
Et il y en a certaines qui sont offertes avec grossissement.
D'accord.
On a aussi Internet, mais Internet, c'est offert là, par à distance.
Mm-hmm. Et quelles sont les plus populaires?
Les plus populaires, bien, Windows 10, étant donné là, que c'est la plus récente,
oui.
Elle est très, très populaire. Mais c'est sûr que le iPhone 5, ça fait des années qu'elle est sortie, mais toujours très populaire. Word mm-hmm. et Excel aussi, c'est très pratique.
Alors, pour être sûr de bien comprendre, vous proposez des formations, notamment de 3 versions de Microsoft
oui.
ou d'Excel.
Oui.
Oui, n'aie pas peur qu'on se perde un petit peu là-dedans.
Non, c'est ça. En fait, c'est que les participants vont pouvoir apprendre à utiliser Word ou Excel, peu importe qu'ils aient soit la version 2010 à la maison, mm-hmm. 2013 ou 2016. Donc, il s'agit de la même formation. Bon. Parce que d'une version à l'autre, là, c'est vraiment mineur, les changements. Donc, les gens vont leur apprendre, par exemple, à créer des tableaux, à imprimer ou reviser leur mm-hmm. texte, mais tous ceux qui ont les versions, que ce soit 2010, 2013 ou 2016, vont pouvoir assister là, à la formation, mais on parle pas, c'est pas trois formations différentes. Là.
Non, d'accord. OK. Alors, de quoi auront besoin les gens qui voudraient suivre les formations?
Oui, en fait, c'est assez simple là, pour suivre les formations en technologie adaptée d'INCA. On a besoin d'un Internet intermédiaire ou haute vitesse. En fait, c'est que dans les formations à distance, le formateur va se connecter à votre ordinateur, donc il va pouvoir mieux vous aider.
Ah,
et
d'accord.
Pour le webinaire, ben, on a compris que pour assister à la formation, on a besoin d'Internet.
Bien sûr.
Il nous faut un bon Internet. Mm-hmm. Les logiciels, bien sûr, là, sur lesquels on suit la formation. Donc, si on suit la formation sur Word, il nous faut Word. Mm-hmm. Ici, on suit aussi la formation en Word avec une revue d'écran. Bien, il nous faut la revue d'écran en question. Fait qu'Internet, le logiciel et un téléphone. Quand c'est une formation à distance, puisque ça dure plusieurs heures, idéalement, à main libre, c'est plus facile. Comme ça, la personne mm-hmm. peut être sur son ordinateur mm-hmm. et écouter en même temps la formation.
Et puis, arrangez-vous pour ne pas être dérangé.
Oui, idéalement, là, c'est mieux. Hein?
Combien de temps ça dure?
Chaque formation ont une durée différente, mais normalement, c'est un rendez-vous hebdomadaire d'à peu près 3 heures.
Okay.
Certaines fois, c'est 8 rencontres. Dans le cas d'Internet, par exemple, c'est mm-hmm. 5 rencontres, c'est un petit peu moins long.
Mais ce serait pas plus simple que les formations en ligne soient accessibles tout le temps?
Oui, bien, en fait, nos formations en ligne sont disponibles de 1 à 2 mois, mais la raison pourquoi elles ne sont pas disponibles en tout temps, la principale, c'est que c'est une formation qu'on dit, c'est une auto-formation supervisée.
Okay.
Donc, pendant la période de formation, même si les gens peuvent se connecter le soir ou quand ils le désirent, on offre un suivi hebdomadaire. Donc, le formateur est là pour répondre à leurs questions, soit par téléphone ou par courriel, mais ce suivi hebdomadaire-là est donné dans le temps de la formation.
D'accord.
Et aussi, ben, on se le cachera pas. Nos formations, oui, sont gratuites, puis on veut qu'ils soient distribués au plus
oui,
de personnes.
Oui, oui.
On veut former le plus de personnes possible.
Oui.
Par contre, pour continuer d'avoir des sous et offrir des formations, on a besoin de savoir à qui ces formations-là sont données pour prouver qu'il y a un besoin. Donc, c'est un peu pour ça aussi. Puis on
D'accord.
veut vraiment que ça soit que les personnes aussi qui bénéficient de nos formations aient la meilleure qualité avec le suivi et le formateur qui est là pour eux.
Bon, alors Sarah Rouleau, d'ailleurs, vous me tendez une perche parce que ce sera la dernière question que je vais vous poser. Qui peut s'inscrire et comment s'inscrit-on?
Oui, en fait, les usagers d'INCA ont accès à nos formations gratuites. Puis pour devenir usager, il suffit de nous appeler pour vous inscrire. Donc, le moindrement qu'on vit avec une perte de vision, on est bienvenu à INCA. Donc, il suffit de nous appeler au 1-800-465-4622. Spécialement pour les formations, ça va être au poste 230. 1-800-465-4622, poste 230. C'est gratuit, puis aussi, je tiens à mentionner, là, pour toutes nos formations qui sont avec le grossissement d'écran, les gens aussi qui n'utilisent pas de logiciel adapté, ils peuvent quand même là, suivre la formation.
Merci beaucoup, Sarah Rouleau. Je rappelle que vous êtes consultante communication et philanthropie pour l'INCA, l'Institut national canadien pour les aveugles. Et merci de nous avoir éclairé sur ces formations gratuites offertes cet hiver par l'INCA.
Ben, ça fait plaisir, puis merci à vous de pouvoir en parler.
De rien, bonne journée.
Bonne journée.
Dans l'au-delà, on s'ennuie. On regarde le bout de la botte de l'Italie. Nuages au pied, on veut beauté. Le cul tout gris des journées de pluie. Dans l'au-delà, Dieu fait sa loi. Y'a ni whisky, ni bière, ni crédit. Y'a Morrison qui chante à l'eau. Un gigolo sans rhum, ça détonne. T'es haut de l'au-delà, descendez-moi. Ramenez-moi sur terre dans tes yeux pères. Y'a des menus santé, désolé. Oméga 3, carotte bêta, café des camoins.
Gainsbourg se bourre, se prend pour Adam. On est ferré, mais on n'a pas l'air. Avec le temps, tout va. Qui vend ses plats plus chers en enfer, au paradis capitaliste, monte à tout prix au sommet du vice. Des hauts, de l'eau, de la descendez-moi, ramenez-moi sur terre, mon petit père. Des hauts, de l'eau, de la ramenez-moi, des hauts, des arts.
Catherine Major sur les ondes de Canal M et Clotilde Seil dans le fauteuil de Benoît Racette ce matin à l'émission Accès Libre. Fallait s'y attendre un jour ou l'autre. Après les télés intelligentes, les téléphones intelligents, on avait hâte de voir un jour arriver un fauteuil motorisé intelligent. Eh bien, c'est en développement et je vais pouvoir parler à Dalia Kerry à ce sujet, professeure adjointe au programme de physiothérapie à l'école de réadaptation à la faculté de médecine à l'Université de Montréal. Ça en fait, ça! Bonjour, Madame Kerry.
Bonjour.
Alors, votre équipe développe en ce moment un fauteuil roulant motorisé intelligent.
Oui, c'est ça.
Il sera destiné à qui?
C'est destiné aux gens qui ont des déficiences physiques, donc qui ont besoin d'un fauteuil roulant, qui auraient probablement besoin d'un fauteuil roulant motorisé parce qu'ils ne pourraient pas utiliser le fauteuil roulant manuel à cause des déficiences au niveau des bras, mais qui ont de la difficulté aussi à utiliser le fauteuil roulant motorisé intelligent. Par exemple, s'ils ont beaucoup de faiblesses au niveau du bras pour contrôler la manette.
Oui.
S'il y a de la fatigue qui survient lorsqu'il y a un déplacement qui est long.
Mm-hmm.
Donc, c'est vraiment pour ce genre de difficultés.
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, un fauteuil intelligent?
Donc, le fauteuil est muni de différents senseurs, par exemple des lasers qui peuvent détecter des obstacles. Alors, on peut penser, par exemple, dans les voitures maintenant où il y a des caméras puis des senseurs qui détectent s'il y a des objets devant nous, derrière nous. Donc, il y a des senseurs qui détectent des obstacles qui sont stables ou qui traversent devant nous. Par exemple, une personne qui marche devant le fauteuil.
Ils détectent avec des senseurs, c'est ça? Hein?
C'est ça. Donc, il y a des lasers, il y a des senseurs sonores.
D'accord. Et dites-moi, je pensais à quelque chose, tout d'un coup, j'avais un flash d'Alia Kerry. Il y a même en ce moment des voitures, on est en train de tester ça, qui vont conduire toutes seules.
C'est ça, oui.
Est-ce qu'on pourrait en arriver là avec ces fauteuils intelligents?
Bien, la façon que le fauteuil présentement fonctionne, il y a une tablette sur le fauteuil et on peut indiquer où est-ce qu'on veut aller. On veut aller tout droit, tout droit puis tourner. Donc, une fois qu'on lance la commande, il peut se déplacer tout seul. Et éventuellement, il pourrait, par exemple, suivre une carte et s'ajuster selon les obstacles qu'il rencontre en route. Donc oui, c'est dans la même idée.
Écoutez, je suis vraiment ébaboubie par cette nouvelle-là. Et en plus, vous l'avez essayé déjà. Hein? Il a déjà été testé, hein? C'est bien ça? Au printemps dernier.
C'est ça. Donc récemment, on était dans le centre d'achat Alexis Nion au centre-ville de Montréal.
Oui.
Pour faire des tests avec un prototype qui est assez avancé dans le développement.
Oui.
Dans un milieu, disons, réel, un milieu de vie réel, le centre d'achat. Beaucoup de gens vont au centre d'achat.
Utilisé par une personne handicapée?
Oui, c'était utilisé par des utilisateurs de fauteuils roulants motorisés.
D'accord. Et alors, quel est le résultat? Qu'est-ce qu'en est ressorti? Où est-ce qu'on en est?
Donc, à travers ces tests-là, on visait deux choses. Une chose était de tester des tests qu'on a en clinique. Quand, par exemple, un ergothérapeute veut prescrire un fauteuil roulant à quelqu'un, ils ont des tests pour voir comment ils fonctionnent avec. Et on voulait tester ces tests-là avec le fauteuil roulant motorisé intelligent. Et on voulait aussi tester le fauteuil dans un contexte réel. Donc, ça a permis de modifier certains des contrôles sur le fauteuil, certains des algorithmes utilisés par l'ordinateur du fauteuil pour que ça fonctionne mieux puis que ça réponde adéquatement dans différentes situations.
Et Dalia Kerry, les usagers de ce futur fauteuil intelligent motorisé, ils en pensent quoi?
On a fait, avant qu'ils puissent l'utiliser réellement, on avait aussi fait des entrevues avec eux. Là, ils ont pu l'utiliser. Donc, on a continué avec nos entrevues. Donc, il y en a beaucoup qui sont très impressionnés par ce que ça peut faire. Ils veulent s'assurer d'être confiants que ça va fonctionner. Ce que ça doit faire. Et ils ne veulent pas que ça prenne le contrôle sur quelque chose qu'ils peuvent déjà faire.
Oui, ça c'est toujours pareil, perdre le contrôle, laisser la machine penser pour nous. Vraiment, d'ailleurs, dans toutes les situations, c'est la chose qui doit faire le plus peur. Et est-ce qu'il participe activement au développement de ce fauteuil?
Oui, donc dans notre équipe de recherche, on est des chercheurs en réadaptation, dont moi-même, en ingénierie, en informatique, Joël Pinault à l'Université McGill. Donc, on a plusieurs genres de chercheurs avec différentes expertises et on va aller impliquer les utilisateurs potentiels du fauteuil à différentes étapes du développement du fauteuil tout au long.
Et alors, maintenant qu'on les a bien fait rêver, parce qu'il y en a beaucoup qui vont en rêver de ce fauteuil intelligent-là, est-ce qu'on peut entrevoir une date de sortie, une façon de se le procurer? Et puis, il faut parler des coûts.
Oui, donc on n'a pas encore de date. Je ne pourrais pas vous dire qu'on a une date.
D'accord.
On y va étape par étape. Et on fait partie d'une plus grande équipe de recherche à travers le Canada qui met vraiment de l'importance sur la commercialisation de ces technologies-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on vise, soit que le fauteuil en entier soit disponible ou bien des composantes, par exemple, le détecteur d'obstacles ou une caméra, etc.
Alors, écoutez, Mme Kerry, on va se tenir au courant parce qu'évidemment, lorsqu'il sera commercialisable, on vous rappellera, on va communiquer avec vous pour que vous nous en parliez, pour que vous nous disiez où est-ce qu'on peut se le procurer, combien ça va coûter et tout ça, parce que j'imagine qu'un petit bijou comme ça, ça va coûter un petit peu de sous quand même.
Oui, forcément. Mais il faudra faire les démarches également pour que ça fasse partie des aides techniques qui sont remboursées.
D'accord, exactement. Eh bien, écoutez, Dalia Kerry, donc professeur adjoint à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui participait avec d'autres ingénieurs informaticiens et chercheurs en réadaptation au développement de ce fauteuil motorisé intelligent. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions.
Merci.
Une bonne journée.
Vous aussi.
Alors, nous sommes toujours sur Canal M. Vous êtes toujours sur Canal M. Nous sommes en studio et mon prochain invité est en studio aussi. Les juristes et agents de défense de droit chez Execo, Laurent Trépanier-Capistran, bonjour.
Bonjour.
Laurent, je suis contente que vous soyez là pour nous parler de l'Office des personnes handicapées du Québec et de la loi qui régit cet office-là, qu'on va peut-être appeler par son acronyme, parce que ça va être plus simple, peut-être, l'OPHQ.
Oui, effectivement, parce que ça l'étire le nom de la loi et de l'office, en fait.
Alors, Première question toute bête, pourquoi a-t-on créé l'OPHQ?
Bon, d'abord, il faut se resituer à une autre époque. Hein. C'est la création de l'OPHQ, on remonte à 1978.
Oui.
Donc, on a créé l'OPHQ, en fait. L'OPHQ a été créé par la loi, et là, je vais le dire une seule fois, après ça, je vais référer à la loi, mais
d'accord.
La loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Très long,
d'accord.
Très long nom, mais bon.
La loi.
C'est dit, disons
voilà.
La loi. Donc, l'OPHQ a été créé pour veiller, dans le fond, à l'application de cette loi-là. Et c'est cette même loi-là, en fait,
ouais.
qui crée l'OPHQ. Donc, un double rôle, donc créé par cette loi, et elle doit appliquer cette loi et veiller à son application.
Autrement dit, la loi relève de l'OPHQ?
Tout à fait.
Hein,
tout à fait, la loi
si
relève de l'OPHQ.
Comprise.
Et c'est cette loi-là qui donne les pouvoirs à l'OPHQ.
Alors, qu'est-ce que cette loi-là assure? Elle assure l'exercice des droits des personnes handicapées, bien sûr, j'imagine, hein, mais... En vue de quoi? Quels sont les objectifs?
En fait, les objectifs que je dirais qui ont un impact concret dans la vie des gens, il y en a deux. Donc,
okay.
Deux principaux, je vous dirais.
D'accord.
D'abord, le plan d'action qu'on appelle. Ce plan d'action-là, c'est quoi? Le plan d'action, c'est quelque chose qui doit être fait par différents établissements. Je vais revenir sur la question
d'accord.
des établissements, mais... Bref, c'est un plan qui doit inclure des obstacles à l'inclusion des personnes en situation de handicap et qui doit aussi inclure les mesures qu'on a mises en œuvre
okay.
pour absorber ou en fait résorber, devrais-je dire, ces obstacles-là et les mesures qu'on mettra en œuvre prochainement pour tenter d'éliminer ces obstacles-là. Et ça, ce plan-là, il doit être produit de façon annuelle et il doit avoir un bilan, finalement, qui mm-hmm. accompagne pour... faire le suivi, finalement, où est-ce qu'on est rendu dans notre plan. Ensuite, je vous disais que j'y reviendrai, qui est-ce qu'on vise
oui.
avec qui doit produire
oui.
ce fameux plan-là? Eh bien, d'abord, il y a tous les ministères de la province de Québec,
oui.
où c'est assez simple. Ensuite, il y a tous les organismes publics, mais également les municipalités qui comptent 15 000 habitants ou plus. Donc, ça fait pas mal de monde, pas mal d'entités qui doivent produire ce plan-là. La principale critique qu'on fait généralement à cette loi-là, et qu'on entend souvent, c'est que, en fait, si on ne produit pas ce plan-là ou si on ne l'applique
oui.
pas, il y a très peu de conséquences légales qui vont être disponibles pour l'OPHQ
mm-hmm.
Pour sanctionner, dans le fond, le fait qu'on n'a pas créé le plan ou qu'on ne l'a pas appliqué. Donc, c'est le bémol, on l'entend régulièrement.
Hein. Oui, oui, oui.
Donc,
oui,
surtout
oui.
dans le contexte du Canada accessible.
On parle d'intégration scolaire.
Mm-hmm.
Hein, c'est bien ça, professionnel et social, donc.
Tout à fait. Et ça, ça m'amène à vous parler finalement du deuxième impact que
oui,
cette loi-là
d'accord.
peut avoir dans la vie concrète des gens. Et c'est un autre plan cette fois-ci, mais qui s'adresse à l'individu. On appelle ça le plan de service.
Ah, OK,
en fait,
d'accord.
Et là, où je vous rejoins, Clotilde, c'est qu'on y traite principalement de l'inclusion scolaire, professionnelle
d'accord.
et sociale. Et ça, c'est lorsque une personne en fait la demande, l'office va produire un plan pour cette personne-là mm-hmm. en vue de son intégration, mm-hmm. qu'elle soit scolaire, professionnelle mm-hmm. ou
d'accord.
sociale. Donc, c'est les deux, je vous dirais, facettes majeures qui ont un impact là, dans la vie des gens en général.
Oui, oui, oui. Ouais. Je lisais ce matin dans les paractualités qu'il y avait 1,1 million de dollars là, qui ont été versés récemment pour l'inclusion professionnelle des jeunes. Personnes handicapées, avez-vous entendu parler de ça, mon ami, ou sûrement?
Oui, un petit peu, en fait, mais reste à voir après ça comment cet argent-là
oui,
va
c'est
être
ça.
Utilisé.
Exactement.
Où réside généralement, après l'annonce, hein, c'est ce qu'on,
oui.
c'est ce qu'on veut savoir.
Bon, quels sont les pouvoirs et quels sont les devoirs de l'OPHQ?
Les devoirs, il y en a beaucoup. J'en ai recensé plus de 20. J'ai tenté de synthétiser ça pour les auditeurs à la maison parce qu'on ne fera pas une liste d'épicerie ici.
Mm-hmm.
Mais c'est beaucoup. Les devoirs sont beaucoup de l'ordre de la promotion, de la sensibilisation, mais aussi de la recommandation auprès des ministères, des différents ministères. Donc, en théorie, si on se fie à la loi, l'OPHQ devrait avoir une oreille particulière auprès des ministères. Or, encore là, je le répète, ça ne veut pas dire qu'il y a un caractère obligatoire aux recommandations
non.
que fait l'OPHQ, mais c'est un pouvoir uniquement de recommandation. Et évidemment, bon, il doit aussi voir à préparer les fameux plans de service que
oui.
j'évoquais précédemment pour les individus. Au niveau de ses pouvoirs maintenant, en fait, on a un très mince pouvoir de réglementation qui est vraiment autour du fonctionnement interne de l'OPHQ. Mm-hmm. Donc, ça touche très peu les individus dans leur quotidien. Et sinon, eh bien, toujours le pouvoir d'assister une personne en situation de handicap qui en fait la demande.
Et puis, Laurent Trépanier-Capistran, oui, je l'ai bien eu, en complément de la loi, la politique gouvernementale à part entière. Qu'est-ce que c'est que la politique gouvernementale à part entière?
Eh bien, c'est une politique qui a été adoptée en 2009 et qui visait un petit peu les mêmes objectifs que la loi, c'est-à-dire favoriser l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Sauf que par la politique, on visait un horizon temporel bien précis. On visait 10 ans.
Ouais.
Donc, si on fait le calcul rapide, là, on achève la visée temporelle de cette politique-là. Mais je vous dirais, si on se questionne sur ce qu'elle ajoute, cette politique-là, par rapport à la loi, on se rend compte qu'elles viennent beaucoup se recouper, en fait.
Oui, je comprends.
C'est qu'il y a des portions ou des mesures qui sont prévues par la loi et qui sont réitérées par la politique, notamment dans les moyens qui sont disponibles pour l'OPHQ ou pour mettre en œuvre les objectifs qu'on vise. Mm-hmm. Et c'est-à-dire, je vous donne deux exemples brefs.
D'accord.
D'abord, les plans d'action. On les retrouve dans la politique comme mesure qui est possible d'appliquer, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau. Hein. C'est déjà dans la loi. Ou encore, les interventions intersectorielles, pardon.
Je vous en prie.
Et donc, ça, c'est des interventions qui visent à faire des liens entre les différents secteurs, notamment scolaires, professionnels et sociaux, dans le but d'avoir une inclusion sociale complète. Mais ça, c'est des choses qui sont déjà dans la loi. Ou peut-être on peut trouver des nouveaux éléments, c'est au niveau de l'identification des problèmes et de l'identification des pistes de solutions. Mais par rapport à ce qui est de mettre en œuvre ou de résorber les problèmes qui ont été identifiés, les mesures sont sensiblement les mêmes.
Et je vais vous poser une dernière question parce que le temps file, il ne nous reste plus qu'une seule minute, et c'est une question que je pose très régulièrement. Je vous le dis à plusieurs intervenants. Pour les gens qui nous écoutent concrètement, est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir et qu'il y a des choses qui vont s'améliorer?
Eh bien, en fait, l'OPHQ est un peu points et piliers.
Oui,
c'est-à-dire qu'elle peut recommander, mais ensuite, les décisions doivent se prendre au niveau du ministère. Et c'est là, en fait, qu'on doit fonder nos espoirs.
Merci beaucoup, Laurent Trépanier-Capistran. Je répète que vous êtes juriste, vous êtes agent de défense de droit chez Execo et puis vous avez eu la gentillesse de venir en studio pour nous présenter cette chronique de droit et nous éclairer un peu plus sur les devoirs, les objectifs et les pouvoirs de l'OPHQ, je vais le redire, l'Office des personnes handicapées du Québec.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Mais je vous en prie, passez une très belle journée.
Écoutez, Accès libre.
Et c'est toujours Clotilde Seille en votre compagnie pour vous animer cette émission en remplacement de l'ami Benoît Racette qui se remet d'une petite grippette. Mais dès la semaine prochaine, il devrait être en votre compagnie. Alors, eh bien, écoutez, c'est le temps de faire la fête. Vous savez, il y a des gens vraiment fantastiques qui nous entourent et puis qui font des choses hors du commun. Et ces gens-là, eh bien, ils vont recevoir au mois de décembre, en début décembre prochain, je pense que c'est le 3 décembre prochain, un prix. Un prix à part entière, mais on vous a non, là vous me faites signe que non.
On l'a déjà reçu.
Ah, vous l'avez déjà reçu.
18 novembre dernier.
Ah bon, alors fausse information de la part d'une personne que je ne nommerai pas, mais je l'embrasse quand même.
Mais dans ce que vous avez lu, probablement, c'était supposé effectivement d'être le 3 décembre.
D'accord.
Mais ça a été devancé.
Alors, je voudrais quand même mettre des noms sur les deux voix que nous entendons là. Stéphane Marcoux, vous êtes directeur général de Plein Rayon.
Bonjour.
Bonjour Stéphane. J'ai également en ma compagnie France Geoffroy. Vous êtes fondatrice de la compagnie Corpuscule Danse et vous êtes danseuse vous-même. Je précise pour les gens qui ne vous connaîtraient pas que vous êtes en fauteuil roulant. Donc c'est vraiment très très innovateur et très beau. Je suis allée voir les images hier soir et j'entends qu'il y a déjà au bout du fil Kellyanne Souter. Vous êtes directrice générale du club de soccer Lakeshore.
Oui, bonjour.
Bonjour Kellyanne. On va commencer par vous, Kellyanne.
Oui.
Écoutez, c'est pas que j'aime pas la danse ou que j'aime pas la bicyclette, mais j'adore le soccer. Et j'ai trouvé, je suis allée voir également un reportage hier sur ce club de soccer, Lakeshore. Oui. C'est vous qui l'avez fondée, Kellyanne? Ou
c'est, oui.
C'est vous qui l'avez créée. Il y a quoi? Il y a 10 ans maintenant?
Presque 10 ans, oui. 2017, ça va faire 10 ans, oui.
Alors, expliquez-nous, qui sont les joueurs, les joueuses et les joueurs de soccer de votre équipe?
Ce sont des jeunes, des adolescentes entre 4 et 20 ans avec les déficiences intellectuelles. Puis, comme tout le monde, ils aiment ça jouer le soccer. C'est comme un programme de développement. C'est pas juste la compétition, c'est le développement.
Oui, ben écoutez, c'est ce que j'ai vu. Et puis, effectivement, on voit des petits bouts de choux. Absolument adorables. Ils ont des sourires aux lèvres, tous.
Oui.
Ça doit être très, très gratifiant. Hein?
Vraiment, oui. Pendant les dernières 9 années, on avait environ 95 enfants dans le programme.
95.
Puis, la chose qui est très bonne pour nous autres, c'est les joueurs qui prennent leur retraite comme joueurs-joueuses. Ils restent dans le programme et ils changent d'uniforme. Ils deviennent entraîneurs. Alors, ils restent tout le temps avec notre famille de soccer.
Alors, parlez-nous de la spécificité de ce club de soccer. Spécificité. Oh, c'est un mot compliqué, peut-être.
Oui.
Je m'en excuse. Bon, qu'est-ce qu'il a de spécial? Vous vous adressez à tous les types de déficiences?
Oui, c'est ça.
C'est absolument
pour
tous.
Nous autres, la raison pour laquelle on a développé le programme, c'est qu'on voulait donner une opportunité pour tous les enfants à jouer le sport de soccer, pas juste les enfants sans besoin spéciaux.
OK. Kellyanne Souter, comment avez-vous monté le programme Supersonic? De quoi s'agit-il, ça?
Bon, ben, honnêtement, la première année, c'était un challenge avec aucun budget pour ça, expérience très limitée avec les personnes handicapées et beaucoup d'idées, mais toutes mélangées.
Mm-hmm.
On avait beaucoup d'intérêt et l'aide des personnes impliquées avec WIA. Vous connaissez le WIA? C'est le... Le bureau au bout de l'ouest de l'île pour les handicapés.
Oui.
Puis il y a aussi les bureaux de Olympiques spéciaux.
D'accord.
Il y avait beaucoup de bénévoles aussi avec des idées qui voulaient nous aider. Alors, ensemble, on a commencé le programme, mais c'était vraiment un challenge.
Dites donc, en 10 ans, vous en avez vu vieillir sûrement des jeunes qui ont participé justement à ces programmes-là?
Le nombre des enfants?
Oui, entre autres, oui.
Oui, c'est juste moins de 100 enfants pendant les dernières
d'accord,
années. Oui.
D'accord. Mais est-ce qu'il y en a qui sont là depuis le début?
Oui, on a plusieurs. Comme j'ai dit tantôt, on avait quelques-unes qui ont commencé, mais maintenant, ils sont comme des entraîneurs. Ils nous aident.
Oui, d'accord. C'est eux qui sont restés là.
Oui.
Et dites-moi, qu'est-ce qu'ils en retirent? Quels sont les avantages pour eux? Est-ce que ce sont des jeunes qui avancent plus vite? Est-ce que ça les aide physiquement, psychologiquement,
le
soccer?
Je pense que c'est plutôt ça. Ils apprennent de jouer un sport et développer comme un athlète, comme leurs frères, leurs sœurs, les voisines, les copains à l'école. Ils ont l'opportunité de savoir quoi ça veut dire d'être avoir un esprit d'équipe, être inclus comme les autres.
Oui, et faire attention à l'autre parce que c'est un sport collectif.
Oui, c'est ça.
Alors, on ne peut pas traverser comme ça le terrain et aller marquer.
Oui.
Hein? On fait des passes.
Ensemble, exactement.
Est-ce que les parents ont un rôle à jouer?
Non, ils ne jouent pas, mais dans un sens, ils partissent parce qu'ils ne sont pas sur le terrain, mais ils restent pour la durée de session. Ils ne laissent pas les enfants tout seuls, mais ils utilisent le temps pour le mettre à jour avec les autres parents. Ils sont comme une famille, tu sais.
Oui.
Ils viennent de la même communauté de famille avec les enfants, avec les besoins spéciaux. Alors, ils font comme un échange d'informations, support, tu sais. Ils relaxent, ils reposent pendant que les enfants sont sur
absolument.
Le terrain.
Absolument. Et ça doit être toujours intéressant quand on est papa ou maman d'un enfant qui vit avec une déficience, de pouvoir justement rencontrer d'autres personnes tout en voyant les petits loups galoper sur le terrain.
Exactement
là.
Ça.
Hein? Et est-ce que ce programme existe ailleurs ou est-ce qu'il y a d'autres villes?
Je peux vous dire, malheureusement, pas comme il y a un besoin. On est fiers qu'il y a des clubs qu'on a travaillé avec pour leur donner le support pour commencer dans leur communauté. Je peux vous dire Dollar des Homos, Saint-Lambert et même Notre-Dame-de-Grâce. Mais la vérité est que chaque club dans la Fédération de soccer du Québec devrait avoir un programme pour tous les membres de leur communauté.
Oui.
On espère une journée de voir ça comme une réalité parce que maintenant, on a beaucoup d'enfants qui traversent trop loin juste pour faire le programme. T'sais?
Oui, mais là, ça prendrait beaucoup de Kellyanne Souter.
Mais on est ici pour aider. T'sais. On a des bénévoles, nos entraîneurs. On veut ça. Mm-hmm. Ça va être mieux pour les personnes.
C'est à Beaconsfield. Hein?
Oui, exact.
Bon. Et est-ce que ça a eu un impact, ça, ce programme-là, sur la communauté de votre ville?
Je crois que que oui. Je pense que tout le monde est très fier. Je pense qu'il y a du monde qui dit « Wow, ça prend quelque chose comme ça pour réaliser qu'il y a des enfants dans notre communauté qui ont besoin de ça, qui ont le droit d'avoir ça. » Mais je pense pour les personnes dans le Sonex, il y a eux autres une réalisation que leur cercle de famille est agrandi. Tout le monde donne le support, la ville, le club, maintenant les autres membres aussi de la programme. Alors, c'est bon.
Kellyanne Souter, vous êtes directrice générale du club de soccer Lakeshore, situé à Kirkland, Beaconsfield.
Oui.
Et c'est pour tout ce que vous venez de nous dire que vous avez reçu la mention coup de cœur du jury du
Merci.
Prix à part entière 2016. Oui. Au nom de Canalem et de tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, on vous embrasse et on vous applaudit bien fort.
Merci très, très bien. C'est bien apprécié. Merci.
Je vous en prie. Passez une belle fin de journée.
À vous aussi. Merci beaucoup pour l'opportunité.
De rien. Au revoir.
Bonjour.
Ça vous donne envie de danser, Mme Geoffroy? Hein?
Ben oui, c'est festif.
C'est festif, hein, cette musique-là.
Ça tombe bien avec la température qu'on a.
Ah oui, écoutez, là, pour l'instant, il ne faut même plus m'en parler. Comme on n'a pas de fenêtre ici dans le studio, je ne sais plus rien. Madame Geoffroy, France Geoffroy, vous avez donc, vous êtes aussi lauréate du prix à part entière 2016 dans la catégorie individu. J'ai vu les images hier. Vous êtes la fondatrice de la compagnie québécoise Corpuscule Danse. Vous êtes une pionnière de la danse intégrée au Québec. Et je voudrais... est-ce que je vous pose la question et vous allez nous raconter, vous êtes devenue tétraplégique à la suite d'un accident. Hein?
Oui, en fait, en 1991, donc ça fait déjà 25 ans, âgée de 17 ans, j'ai eu un accident de plongeon. Donc, j'ai plongé tout simplement au bout d'un quai et il n'y avait pas assez profond d'eau. Et j'ai heurté ma tête au fond du lac et il s'en est suivi une section de la moelle épinière et voilà, une tétraplégie.
Est-ce que vous dansiez déjà quand vous étiez jeune?
À l'époque, à 17 ans, je venais de passer des auditions au Collège Montmorency en danse, et j'avais été acceptée et je m'apprêtais à commencer une formation. En fait, l'accident, c'est le 17 août et ma formation devait commencer le 22 août.
Les plongeons, hein, Dieu sait si on en parle maintenant souvent aussi à nos jeunes en disant « Attention, attention, ça n'arrive pas qu'aux autres. »
Ça n'arrive pas qu'aux autres et malheureusement, on s'envoie une des parties les plus vulnérables. Je veux dire, le cou, il n'y a pas d'organe qui protège rien. Puis souvent, ben, on est téméraire quand on est jeune et on se lance et on ne sait pas les conséquences. Et même moi, quand je parle de mon accident et que je dis que c'est un accident de plongeon, les gens sont toujours un peu étonnés.
Ah oui?
Oui, ils pensent facilement au sport ou à la vitesse en auto,
on ne pense pas à ça. Et téméraire, vous l'êtes resté. C'est pas cet accident-là qui vous a arrêté. Vous êtes une personne volontaire et vous avez décidé... Bon, vous êtes maintenant une spécialiste de ce qu'on appelle la danse intégrée. Mais comment vous en êtes venue là? Comment tout d'un coup, vous en êtes venue dans votre fauteuil, quoi, à commencer à danser en écoutant de la musique? Comment ça s'est passé?
En fait, ça s'est fait par deux voies. La première, c'est que en racontant mon histoire tout bonnement à un réalisateur, que je lui disais, comme je vous ai un peu raconté à vous, mon rêve était de devenir danseuse et j'ai eu un accident. Je pense que cette histoire a frappé l'imaginaire. Les gens trouvaient que c'était peut-être une histoire qu'il fallait aller au bout de cette histoire-là. Alors, j'ai participé dans une émission de télé qui s'appelait « Jeune autrement ». Et c'est là que j'ai été faire une entrevue au studio 303. qui est un lieu culte de la danse ici à Montréal. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Valerie Dean, qui a été la première personne, en fait, qui a vu en moi un talent ou un âme de danseuse et qui m'a pris sous son aile par la suite. Et j'ai commencé des cours avec elle. Autre voie qui m'a amenée à croire que c'était possible, c'est Céleste Dandaker, qui est une femme extraordinaire, qui a fondé une compagnie de danse en Angleterre, qui est la compagnie Kenduko. Cette femme-là avait une tétraplégie comme moi. Elle a eu un accident sur scène et sa carrière a parti en flèche suite à son accident. Je pense qu'elle avait déjà la notoriété en tant que danseuse. Alors, la fondation de sa compagnie s'est faite en 91 et c'est devenu une compagnie de renommée internationale. Alors, ces deux événements-là, souvent je dis, je suis arrivée dans l'histoire au bon moment.
Oui.
Si j'avais voulu enseigner ou danser peut-être dans les années 60-70, juste pénétrer le milieu de la danse de cette époque-là, tu sais, quand je parle de pénétrer le milieu de la danse, je fais référence au classique ou à des types de danse. On imagine mal la danse qui ne passe pas par les pieds, n'est-ce
Bien
pas?
Bien sûr.
Donc, je pense que c'était vraiment un bon moment pour moi. En plus, j'étais au début de mon accident, fait que ça m'a fait croire, ça m'a donné un objectif de vie.
Est-ce que vous avez pensé à un moment donné que ça pourrait aussi être possible comme réadaptation?
En fait, pour moi, la danse, c'est vraiment un art à part entière. Et c'est sûr que souvent, on me demande, est-ce que c'est de l'art thérapie? Qu'est-ce que tu fais au juste? C'est sûr que ça a une incidence positive. Moi, je pense qu'à partir du moment quand on est dans l'action puis si on pratique quelque chose de physique, veut pas, il y a des bienfaits, autant physiques que psychologiques.
Exactement.
Comme on disait avec le soccer.
Oui.
Mais
ne serait-ce que l'aspect créatif, quoi.
Absolument. Mais pour moi, c'était vraiment... Bon, l'idée de me réaliser en tant qu'artiste, ce que je fais et que j'ai fait, j'en suis à ma 9e production, puis j'ai travaillé avec des grands chorégraphes du Québec, mais à un moment donné, plus tardivement dans mon processus, j'ai eu envie de redonner au prochain, parce que, veux, veux pas, on crée le rêve.
Oui.
Les gens viennent nous voir danser, et ensuite de ça, ils font, bien, si tu danses, comment moi je peux danser?
C'est ça. Alors vous êtes professeur.
Absolument. J'enseigne depuis 2002. J'ai enseigné d'abord aux adultes pendant plusieurs années, monté beaucoup de spectacles avec mon volet enseignement. Et depuis environ 5 ans maintenant, j'enseigne aux enfants, aux adolescents. J'ai d'ailleurs créé un gros, gros spectacle le 3 juin dernier.
Oui.
On a présenté 2 soirs qui s'appelait « Raconte-moi un souvenir » et ça mettait en scène 37 personnes avec et sans handicap. Et ce qui est important de dire aussi dans ma pratique, ce n'est pas exclusivement de la danse qui s'adresse aux personnes handicapées. Moi, ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse, c'est de mélanger les deux univers.
Les deux, absolument.
Parce que pour moi, de la vraie intégration, c'est ça.
Oui.
C'est bien ce qui se passe quand on met tous les gens dans une équipe de soccer spécialisée, puis des fois, on n'a pas le choix.
Non.
Là, je dis soccer, j'aurais pu nommer
Non, je comprends tout à fait.
N'importe quel autre type
d'activité,
de sport ou d'activité. Mais moi, ce qui m'a vraiment accroché quand je suis allée en Angleterre, parce que j'ai vraiment calqué, c'est pas moi qui ai inventé ça, la danse intégrée, ça existe depuis les années 80 aux États-Unis puis en Angleterre. Moi, c'est ce qui m'a rejoint parce que moi, je suis une personne handicapée, mais accidentée.
Ouais.
Alors, j'étais pas dans ce milieu-là depuis l'enfance.
Du tout, non, c'est ça.
Et au départ, il y a beaucoup de déni, de rejet de ce milieu-là. Alors moi, ça m'a permis de me rapprocher autant du milieu des personnes handicapées puis de le faire autrement, puis aussi d'avoir la portion là, de pouvoir, que ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde.
Et c'est la raison aussi pour laquelle vous avez dansé avec des grands chorégraphes ici. Votre travail, est-ce qu'il est reconnu par ces gens-là? Beaucoup?
Oui, mon travail est reconnu par les pairs. Donc, oui. J'ai des subventions du Conseil des arts du Canada, bon. Du Conseil des arts et des lettres
alléluia.
Du Québec. Alléluia. J'en ai, ça ne veut pas dire qu'ils sont récurrentes et que c'est l'abondance. Mm-hmm. Chaque projet demande une nouvelle... Ouais. Des nouvelles démarches.
Bien sûr.
Mais oui, il y a une reconnaissance.
Rapidement, quels sont les projets, Madame
Les
Geoffroy?
Projets, dans l'immédiat, je travaille sur une plateforme. En fait, il y a une plateforme web qui existe qui s'appelle Quadriptyque. C'est une recherche qui vise avec 4 chorégraphes québécois, dont Dave Saint-Pierre, Déborah Dunn, Sarah-Ève Grant et Lucie Grégoire.
Okay.
Ça comprend 7 interprètes, dont 4 avec un handicap. Et on fait des périodes de recherche de 50 heures. Il y en a une qui est passée à l'automne avec Déborah Dunn. Et il y en a d'autres qui viendront au printemps. Et c'est l'idée de créer une plateforme pour parler de la danse intégrée, échanger avec le public, démystifier cette danse-là, qui est encore malheureusement méconnue. Et on sait que le tabou du handicap au Québec est quand même... assez important. Alors, c'est vraiment pour amener le public, autant le public de la danse que le public du milieu du handicap, que complètement les gens néophytes, à mieux comprendre.
À mieux comprendre.
Et à apprécier et à...
Oui.
Et à poursuivre justement la reconnaissance.
J'invite, si vous me le permettez, France Geoffroy, j'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à aller voir déjà, avant même d'aller dans une salle pour votre prochaine production, faites comme moi, allez sur corpusculedanse.com, allez voir les images, allez voir. C'est de toute beauté de vous voir danser, France, vraiment.
Et j'inviterais aussi les gens à aller sur la plateforme Quadriptyque parce que c'est un projet en soi.
D'accord.
Donc, c'est quadriptyque.com.
.com.
Et à voir aussi d'autres interprètes avec un handicap parce que maintenant, il y a une relève, dont Maxime Despomerleau, qui est dans le projet.
Oui!
Et on a aussi Roya Orsini, qui est une Australienne, et Marie-Hélène Bellavance, et toute une brochette d'artistes aussi fantastiques les uns que les autres.
France Geoffroy, à vous aussi, bravo pour ce prix à part entière.
Merci beaucoup.
Merci. Et encore une musique qui nous donne la bougeotte. Ça, il me semble que ça pédalerait bien, ça, M. Marcoux.
Ça irait vite.
Hein, ça irait vite. Hein. Je m'adresse à Stéphane Marcoux, directeur général de Plein Rayon à Cowansville. Vous aussi, lauréat du prix à part entière 2016 dans la catégorie organisme à but non lucratif. Je me demande, Madame Geoffroy, vous, c'était dans la catégorie individu hein,
oui,
également.
Oui, c'est bien ça.
Alors, vous aussi, vous allez recevoir une bourse. C'est quand même assez substantiel, 10 000 $
oui.
Surtout dans le cas où on construit, on reconstruit. Et dans votre cas, ce sont des vélos. Ben, c'est bienvenu. Alors, parlez-nous de ce programme Plein Rayon pour lequel vous avez été primé.
OK. Ben, premièrement, Plein Rayon, ça s'adresse à des jeunes en difficulté d'apprentissage avec une déficience intellectuelle et dans le spectre de l'autisme.
Okay.
On prend des élèves au niveau secondaire.
Oui.
En transition presque à l'âge de 21 ans, parce que aussi on a beaucoup de 21 ans à notre programme. Ce qui arrive, c'est qu'une fois que ces gens-là ont droit à l'éducation jusqu'à 21 ans, mais une fois que le 21
c'est ans
arrive,
fatidique.
Ils tombent dans le trou.
Oui.
Puis nous, ben, on est le filet.
Oui, oui.
On les attrape, puis on leur donne une place à aller où ils se sentent qu'ils font partie inclusivement de notre communauté. Et ils font des exercices concrets pour participer à leur communauté en général.
Alors, moi, j'ai vu les images, j'ai vu ce que c'était que ce programme Plein Rayon. C'est fantastique. Parlez-nous-en, donc, de ces vélos qui sont retapés, tout ça, pour la communauté. Parlez-nous-en de ça.
Oui. Donc, nous, c'est ça, on montre des habiletés mécaniques à ces jeunes-là.
D'accord.
Jeunes adultes et adultes jusqu'à 35 ans environ. Puis
qui, au départ, n'en ont pas du tout?
Non, ils n'ont aucune. Non. Okay. Ils arrivent à nous, puis c'est ça, là, on leur donne une place, puis y en a qui arrivent, ils n'ont jamais touché un vélo. Puis même à ça, avec des personnes avec le spectre de l'autisme, des fois, ça peut être un peu challengeant de salir les mains. Mais ils arrivent. Ils arrivent éventuellement. Oui. Donc, c'est ça. Avec la MRC de ma région, les éco-centres, on récupère des vieux vélos puis des dons des gens. Puis ce qu'on fait, c'est on remet les vélos à neuf avec des pièces, puis on les retape bien. Puis ce qu'on fait, c'est on les redonne à les jeunes dans la communauté et dans les écoles. Oui, on en a même jusque dans les communautés autochtones à West Wanapie, à Chichesabee aussi. Donc on en voit partout.
Est-ce que vous pouvez imaginer combien de vélos comme ça sont retapés et redistribués par année?
Bien là, présentement, on est seulement en 10 mois de, depuis
d'activité.
10 mois.
Bon.
Alors, on a fait environ, je vous dirais, là, jusqu'à date, ici, environ 700 vélos. Ouais.
Bon. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus exigeant, Stéphane Marcoux, dans la mise en place de ce programme?
Bien, c'est sûr, c'est de trouver les fonds nécessaires.
Voilà, hein. On en revient toujours à ça.
C'est toujours...
le financement.
C'est le financement. Présentement, notre projet, c'est tous des gens au privé. 90 % des sommes qui ont été amassées pour ce projet-là a été donné par des gens au privé. J'ai presque aucune subvention gouvernementale pour faire ça. Quand j'ai commencé mon projet, je l'explique à plusieurs gens, c'est très... ça frappe quand on dit ça. Quand j'ai parti en février, on avait 6 à 8 participants par semaine. Oui. Maintenant, on en a 77. 77 personnes. Alors, quand on voit ça, on se dit, OK, j'en parle souvent parce que moi, ça me... Il ferait quoi, ces 77 personnes-là?
Sans compter que vous les revendez pas.
Ils sont
donnés, tout ça est du don. Et finalement, vous ne recevez rien, si je comprends bien, il n'y a pas de subvention gouvernementale.
Non, mais on se cherche des subventions, ça c'est sûr, on est à la chasse.
et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, puisqu'on en parle là comme ça?
Bien, c'est sûr, nous, on a avec le Township Foundation, nous, présentement, on n'a pas notre charte. On est sur le point de finir notre charte. Mais à travers les Township Foundation, les gens peuvent... c'est moi, sur notre site web, pleinrayon.ca, les gens peuvent donner s'ils veulent. Et il y a un reçu qui peut être émis par...
Alors, je vais redonner ça, pleinrayon au pluriel.
Oui,
donc, pleinrayon, comme les rayons d'une bicyclette.
C'est
d'ailleurs, on les voit frotter ça énergiquement. Écoutez, quand elles sortent, elles sont... On a l'impression qu'elles sont flambant neuves. Attention. De quelle manière vous leur enseignez la mécanique? Est-ce que vous avez des spécialistes, des professeurs mécaniciens?
Ben c'est ça. Moi j'ai eu deux vies. J'étais cycliste au niveau élite. Puis j'ai toujours travaillé avec les gens avec une déficience de spectre autiste. Donc, moi, c'est mes deux passions de ma vie.
Que vous avez réunies.
J'ai marié ça ensemble, puis c'est le plus beau mariage.
C'est fantastique. Il reste combien de temps en moyenne avec vous?
En général, présentement, il reste quand même assez longtemps. Nous, on travaille le socio-professionnel. On essaie de monter ces gens-là à un certain niveau pour peut-être avoir un petit emploi.
Pour leur permettre d'aller plus loin.
Exactement. On en a, depuis le début du programme, 4 qui ont été trouvés des petits emplois. Il y en a qui sont revenus parce qu'on vous donne un petit tune-up. Et voilà.
Mais j'imagine que vous avez le projet peut-être de pouvoir en engager vous-même, donc de pouvoir les payer.
C'est ça, j'ai un projet d'économie sociale qui est sur le point de partir en février prochain. C'est ça, ça va être d'ouvrir une petite place de réparation de vélos. Puis c'est ça, c'est les gens qui vont réparer les vélos vont être mes participants c'est un autre bagarre avec l'aide sociale. On veut les rémunérer, mais en tout cas, ça, c'est un autre bataille. C'est pesant.
Oui, dont on a déjà d'ailleurs souvent parlé ici à l'émission, bien sûr, à Canal M. Est-ce que vous pensez que c'est un programme exportable qui pourrait se faire ailleurs, dans d'autres villes?
Absolument. C'est sûr. Déjà, on a eu la ville de Sherbrooke qui nous a approché une école.
En Estrie,
qui aimerait faire ça. Il y a plein de petites choses. Ça bouille. Là. Tu vois qu'il y a l'idée, c'est de donner des vraies habiletés puis des vraies chances à ces gens-là. C'est de faire de la vraie inclusion sociale. Tu peux pas avoir plus d'inclusion sociale que ça. Là. Ils vont porter les vélos dans les écoles. Ils voient les petits jeunes qu'ils reçoivent. Ça, c'est ça, la vraie inclusion sociale. Voilà,
Comme vous le disiez, France, tout à l'heure, Geoffroy, pouvoir mixer.
C'est ça.
Voilà, c'est ça, exactement.
C'est important. Puis c'est sûr qu'il y a plein, il faut juste avoir la créativité puis la drive de vouloir le faire. Puis je pense n'importe qui peut le faire, mais faut le faire.
Ce sont juste des personnes qui ont un handicap mental,
intellectuel et dans le spectre de l'autisme.
D'accord.
Oui, et des jeunes avec des problèmes d'apprentissage scolaire,
d'accord.
Borderline, décrochage, qu'on prend parce qu'on leur donne une chance.
Ça pourrait être aussi, à un moment donné, des jeunes avec un handicap physique ou pas?
Absolument. Hein? Absolument.
On pourrait ouvrir ça.
Tout est dans, quand je parle, tout est dans l'adaptation.
Alors là, les projets, aller chercher du financement.
Absolument.
Pouvoir payer des jeunes,
oui.
Pouvoir peut-être ouvrir ça. Est-ce que la ville vous aide? Est-ce que la ville de Cowansville est très présente?
Bien, à date, la ville de Cowansville nous a donné une subvention de 5 000 $ c'est sûr que présentement, j'ai eu une réunion il y a 3 semaines avec le maire de la ville pour demander un petit peu plus de financement, oui. Un petit peu plus costaud pour les prochaines années.
On verra. Et on verra. Écoutez, à vous aussi, Stéphane Marcoux, directeur général de Plein Rayon à Cowansville. Donc, je le répète, lauréat du prix à part entière 2016 dans la catégorie organisme à but non lucratif. Bravo. Bravo.
Merci.
Pour ce que vous faites. Bravo aussi à France. Geoffroy. Bravo aussi à, que je retrouve son nom, Kellyanne Souter, directrice générale du club de soccer de Lakeshore, alors que vous, France, vous êtes fondatrice de la compagnie Corpuscule Danse, danseuse vous-même et professeure de danse. À vous toutes, vraiment vous tous, bravo. On est très heureux et très fiers de vous avoir accueilli ce matin à l'émission Accès Libre.
Merci
beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Et bonne chance. C'était Accès Libre. Merci d'avoir été là. Passez une très belle journée. Au revoir.